Chapitre 6. Au jour, Philippe de Tavernet. Le voyageur s'était levé de grand matin pour donner un coup d'œil à la voiture et s'informer de la santé d'Altotas. Tout le monde dormait encore au château, excepté Gilbert qui, caché derrière les barreaux d'une chambre qu'il habitait à la porte d'entrée, avait curieusement suivi les manœuvres de Balsamo et interrogé toutes ses démarches. Mais Balsamo s'était retiré, fermant la porte du compartiment d'Altotas, et il était loin avant que Gilbert eût mis le pied dans l'avenue. En effet, Balsamo, en remontant vers le massif, avait été frappé du changement que le jour apportait dans le tableau qui lui avait paru si sombre la veille. Le petit château, blanc et rouge, car il était fait de pierres et de briques, était surmonté d'une forêt de sycomores et de faux ébéniers immenses, dont les grappes parfumées tombaient sur le toit et ceignaient les pavillons comme des couronnes d'or. En avant, sur le parterre, une pièce d'eau de 30 pas en carré, avec une large bordure de gazon et une haie de sureau en fleurs, faisait un délicieux repos pour la vue, sacrifiée de ce côté grâce à la hauteur des marronniers et des trembles de l'avenue. De chaque côté des pavillons montait jusqu'à un petit bois touffu, asile d'une multitude d'oiseaux dont on entendait au château le concert matinal, montait, disons-nous, une large allée d'érables, de platanes et de tilleuls. Balsamo prit celle de gauche et, au bout d'une 20aine de pas, il se trouva dans un massif de verdure dont les roses et les seringas, trempées la veille par la pluie d'orage, exhalaient des parfums délicieux. Sous des bordures de troène perçaient les chèvrefeuilles et les jasmins, et une longue allée d'iris entremêlée de fraisiers se perdait sous un bois tout enchevêtré de ronces en fleurs et d'aubépines roses. Balsamo arriva ainsi jusqu'à la partie culminante du terrain. Il vit les ruines, majestueuses encore, d'un château bâti en silex. Une moitié de tour subsistait, seule, au milieu d'un énorme amoncellement de pierres, sur lesquels serpentaient de longues guirlandes de lierre et de vigne vierge, ces sauvages enfants de la destruction que la nature a placés sur les ruines pour indiquer à l'homme que les ruines elles-mêmes sont fécondes. Ainsi considéré, le domaine de Tavernet, borné à 7 ou 8 arpents, ne manquait ni de dignité ni de grâce. La maison ressemblait à ces cavernes dont la nature embellit les bords avec ses fleurs, ses lianes et sa capricieuse fantaisie de ces groupes de rochers, mais dont la nudité extérieure effraie et repousse le voyageur égaré qui demande à ces roches asile pour la nuit. Tandis que Balsamo revenait après 1 heure de promenade des ruines vers la maison d'habitation, il vit le baron, ensevelissant sa frêle personne dans sa grande robe de chambre d'indienne à fleurs, sortir de la maison par une porte latérale donnant sur l'escalier et parcourir le jardin en épluchant ses roses et en écrasant des colimaçons. Balsamo se hâta d'accourir à sa rencontre. « Monsieur, dit-il avec une politesse d'autant plus recherchée qu'il avait sondé plus avant la pauvreté de son hôte, permettez-moi de vous présenter mes excuses en même temps que mes respects. J'aurais dû attendre votre réveil pour descendre, mais de ma fenêtre, le coup d'œil de Tavernet m'a séduit. J'ai voulu voir de près ce beau jardin et ses ruines imposantes. « Le fait est, monsieur, que les ruines sont fort belles, » répondit le baron après avoir rendu ses politesses à Balsamo. « C'est même tout ce qu'il y a de beau ici. »« C'était un château ?» demanda le voyageur. « Oui, c'était le mien, ou plutôt celui de mes ancêtres. On l'appelait Maison Rouge, et nous avons longtemps porté ce nom avec celui de Tavernet. La baronnie est même celle de Maison Rouge, mais, mon cher hôte, ne parlons plus de ce qui n'est plus. » Balsamo s'inclina en signe d'adhésion. « Je voulais de mon côté, monsieur, continua le baron, vous faire mes excuses. Ma maison est pauvre et je vous avais prévenu. Oh, je m'y trouve admirablement bien, monsieur. Un chenil, mon cher hôte, un chenil, dit le baron, un nid que les rats commencent à prendre en affection depuis que les renards, les lézards et les couleuvres les ont chassés de l'autre château. Ah, pardieu, monsieur !» continua le baron, « vous qui êtes sorcier, ou peu s'en faut, vous devriez bien relever d'un coup de baguette magique le vieux château de Maison Rouge et ne pas oublier surtout les 2000 arpents de prés et de bois qui formaient sa ceinture. Mais je gage qu'au lieu de songer à cela, vous avez eu la politesse de dormir dans un exécrable lit. « Oh, monsieur, ne vous défendez pas, mon cher hôte, le lit est exécrable, je le connais, c'est celui de mon fils. » Oh, je vous jure, monsieur le baron, que tel qu'il est, le lit m'a paru excellent. En tout cas, je suis confus des bontés que vous avez pour moi, et je voudrais de tout mon cœur vous le prouver en vous rendant un service quelconque. Le vieillard, qui raillait toujours, ne manqua pas de répliquer. Eh bien, dit-il, en montrant la brie qui lui apportait un verre d'eau pure sur une magnifique assiette de Saxe, l'occasion s'en présente, monsieur le baron. Faites pour moi ce que notre seigneur a fait pour les noces de Cana, changer cette eau en vin, mais en vin de Bourgogne, au moins en Chambertin, par exemple. Vous me rendrez en ce moment le plus grand service que vous puissiez me rendre. Balsamo sourit. Le vieillard prit le sourire pour une dénégation. Il prit le verre et avala son contenu d'un trait. Excellent spécifique, dit Balsamo. L'eau est le plus noble des éléments, baron, attendu que c'est sur l'eau que fut porté l'esprit de Dieu avant la création du monde. Rien ne résiste à son action. Il perce la pierre et peut-être un jour reconnaîtra-t-on qu'il dissout le diamant. Eh bien, l'eau me dissoudra, dit le baron. Voulez-vous trinquer avec moi, mon hôte? Elle a sur mon vin l'avantage d'être d'un excellent cru. Oh, il en reste encore. Ce n'est pas comme de mon marasquin. Si vous aviez à votre verre ajouté un verre pour moi, mon cher hôte, peut-être eusse-je pu tirer de cette politesse un moyen de vous être utile. Bon, expliquez-moi cela, est-il encore temps? Oh, mon Dieu, oui, ordonnez à ce brave homme de m'apporter un verre d'eau bien pure. La brie, vous entendez? Dit le baron. La brie partit avec son activité ordinaire. Comment, dit le baron en se retournant vers son hôte, comment le verre d'eau que je bois chaque matin renfermerait-il des propriétés ou des secrets dont je ne me doutais pas? Comment, j'aurais depuis 10 ans fait de l'alchimie comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, sans m'en douter? J'ignore ce que vous avez fait, répondit gravement le baron, mais je sais ce que je fais, moi. Puis, se retournant vers la brie qui avait fait la commission avec une rapidité miraculeuse, Merci, mon brave serviteur, dit-il. Et prenant le verre de ses mains, il l'éleva à la hauteur de ses yeux et interrogea le contenu du cristal sur lequel le grand jour faisait nager des perles et courir des zébrures violettes ou diamantées. C'est donc bien beau ce que l'on voit dans un verre d'eau, dit le baron. Diable, diable! Mais oui, monsieur le baron, répondit l'étranger, aujourd'hui, du moins, c'est fort beau. Et Balsamo parut redoubler d'attention, tandis que le baron, malgré lui, le suivait des yeux et que la brie, tout ébahie, continuait de lui tendre son assiette. Qui voyez-vous, mon cher hôte? Dit le baron en continuant son persiflage. En vérité, je boude d'impatience. Un héritage pour moi, un nouveau maison rouge pour établir un peu mes petites affaires. Je vois l'invitation que je vais vous transmettre de vous tenir sur le qui-vive. Vraiment, dois-je être attaqué? Non, mais vous devez ce matin même recevoir une visite. Alors, c'est que vous avez donné rendez-vous à quelqu'un chez moi. C'est mal, monsieur, c'est très mal. Il n'y aura peut-être pas de perdreau ce matin, prenez-y garde. Ce que j'ai l'honneur de vous dire est sérieux, mon cher hôte, reprit Balsamo, et de la plus haute importance. Quelqu'un s'achemine en ce moment vers Tabernet. Par quel hasard, mon Dieu, et quelle espèce de visite! Instruisez-moi, mon cher hôte, je vous en supplie, car je vous avouerai que pour moi, vous avez dû vous en apercevoir à l'accueil un peu vinaigre que je vous ai fait, tout visiteur est importun. Précisez, cher sorcier, précisez si cela vous est possible. Non seulement cela m'est possible, mais je dirais plus, pour que vous n'ayez pas une trop grande obligation, cela m'est même facile. Et Balsamo ramena son œil scrutateur sur la couche d'opale qui ondulait dans le verre. Eh bien, voyez-vous? Demanda le baron. Parfaitement. Alors, parlez, ma sœur Anne. Je vois venir une personne de haute condition. Ben, vraiment, et cette personne vient comme cela, sans être invitée par personne. Elle s'est invitée par elle-même, elle est conduite par monsieur votre fils. Par Philippe? Par lui-même. Ici, le baron fut pris d'un accès d'hilarité fort désobligeant pour le sorcier. Oh, ah, dit-il, conduite par mon fils. Et vous dites que cette personne est conduite par mon fils. Oui, baron. Vous le connaissez donc, mon fils? Pas le moins du monde. Et mon fils est en ce moment à une demi-lieue, un quart de lieue peut-être. D'ici? Oui. Mon cher monsieur, mon fils est à Strasbourg où il tient garnison, et à moins de s'exposer à être déclaré déserteur, ce qu'il ne le fera pas, je vous jure, il ne peut m'amener personne. Il vous amène cependant quelqu'un, dit Balsamo en continuant d'interroger son verre d'eau. Et ce quelqu'un, demanda le baron, est-ce un homme, est-ce une femme? C'est une dame, baron, et même une très grande dame. Ah, tenez, quelque chose de particulier, d'étrange. D'important, reprit le baron. Ma foi, oui. Ah, je vais dans ce cas. C'est que vous ferez bien d'éloigner votre petite servante, cette petite drôlesse, comme vous dites, qui a de la corne au bout des doigts. Et pourquoi cela l'éloignerais-je? Parce que Nicole le Guet a dans le visage quelques traits de la personne qui vient ici. Et vous dites que c'est une grande dame qui ressemble à Nicole. Vous voyez bien que vous tombez dans la contradiction. Pourquoi pas? J'ai acheté autrefois une esclave qui ressemblait tellement à la reine Cléopâtre qu'il était question de la conduire à Rome pour la faire figurer dans le triomphe d'Octave. Bon, voilà que ça vous reprend, dit le baron. Ensuite, faites-en ce que vous voudrez de ce que je vous dis, mon cher hôte, vous comprenez, la chose ne me regarde aucunement et est toute dans vos intérêts. Mais en quoi cette ressemblance de Nicole peut-elle blesser la personne? Supposez que vous soyez roi de France, ce que je ne vous souhaite pas, ou dauphin, ce que je vous souhaite moins encore, seriez-vous charmé, en entrant dans une maison, de trouver, au nombre des domestiques de cette maison, une contrefaçon de votre auguste visage? Ah, diable, dit le baron, voici un dilemme des plus forts. Il résulterait donc de ce que vous dites que la très haute et très puissante dame qui va venir serait peut-être mal contente de voir son visage vivant en jupe courte et en fichu de toile. Eh bien, dit le baron, toujours riant, nous y aviserons quand il faudra, mais voyez-vous, cher baron, dans tout cela, c'est mon fils qui me réjouit le plus, ce cher Philippe qu'un heureux hasard va nous amener, comme cela, sans crier gare. Et le baron se mit à rire plus fort. Ainsi, dit gravement Balsamo, ma prédiction vous fait plaisir. Mais tant mieux, ma foi, mais à votre place, baron, à ma place, je donnerai quelques ordres, je ferai quelques dispositions. Vraiment? Oui, j'y songerai, cher hôte, j'y songerai. Il serait temps. C'est donc sérieusement que vous me dites cela? On ne peut plus sérieusement, baron, car si vous vouliez seulement recevoir dignement la personne qui vous fait la faveur de vous visiter, vous n'avez pas une minute à perdre. Le baron secoua la tête. Vous doutez, je crois, dit Balsamo. Ma foi, cher hôte, j'avoue que vous avez affaire à l'incrédule le plus endurci. Ce fut en ce moment que le baron se dirigea du côté du pavillon de sa fille pour lui faire part de la prédiction de son hôte et qu'il appela « André! André! » Nous savons comment la jeune fille répondit à l'invitation de son père et comment le regard fascinateur de Balsamo l'attira près de la fenêtre. Nicole était là, regardant avec étonnement l'abri qui lui faisait des signes et cherchait à comprendre. C'est diablement difficile à croire, répétait le baron, et à moins que de voir. Alors, puisqu'il faut absolument que vous voyez, retournez-vous, dit Balsamo en étendant la main vers l'avenue, au bout de laquelle galopait à toute bride un cavalier dont le cheval faisait résonner la terre sous ses pas. Oh! s'écria le baron, voilà en effet. Monsieur Philippe, s'écria Nicole en se haussant sur la pointe des pieds. Notre jeune maître, fit l'abri avec un grognement de joie. Mon frère, s'exclama André en lui tendant les deux bras par sa fenêtre. Serait-ce par hasard, monsieur, votre fils, cher baron? Demanda négligemment Balsamo. Oui, pardieu, c'est lui-même, répondit le baron, stupéfait. C'est un commencement, dit Balsamo. Décidément, vous êtes donc sorcier, demanda le baron. Un sourire de triomphe se dessina sur les lèvres de l'étranger. Le cheval grandissait à vue d'œil. On le vit bientôt, ruisselant de sueur, entouré d'une vapeur humide, franchir les dernières rangées d'arbres, et il courait encore qu'un jeune officier de taille moyenne, couvert de boue, et la figure animée par la rapidité de la course, sautait à bas du coursier et venait embrasser son père. Ah, diable! Disait le baron, ébranlé dans ses principes d'incrédulité. Ah, diable! Oui, mon père, disait Philippe, qui voyait un reste de doute flotter sur le visage du vieillard. C'est moi, c'est bien moi. Sans doute c'est toi, répondit le baron. Je le vois, mordieu, bien, mais par quel hasard est-ce toi? Mon père, dit Philippe, un grand honneur est réservé à notre maison. Le vieillard releva la tête. Une visite illustre se dirige vers Tavernet. Dans une heure, Marie-Antoinette Joseph, archiduchesse d'Autriche et dauphine de France, sera ici. Le baron laissa tomber ses bras avec autant d'humilité qu'il avait montré de sarcasme et d'ironie, et se tournant vers Balsamo. Pardonnez, dit-il. Monsieur, dit Balsamo, en saluant Tavernet, je vous laisse avec monsieur votre fils. Il y a longtemps que vous ne vous êtes vus et vous devez avoir mille choses à vous dire. Et Balsamo, après avoir salué André, qui, toute joyeuse à l'arrivée de son frère, se précipitait à sa rencontre, se retira, faisant un signe à Nicole et à Labri, qui, sans doute, comprirent ce signe, car ils suivirent Balsamo et disparurent avec lui sous les arbres de l'avenue. Philippe de Tavernet, chevalier de Maison Rouge, ne ressemblait point à sa sœur, quoiqu'il fût aussi beau comme homme qu'elle était belle comme femme. En effet, des yeux d'une expression douce et fière, une coupe irréprochable de visage, d'admirables mains, un pied de femme et la taille la mieux prise du monde, en faisaient un charmant cavalier. Comme tous les esprits distingués qui se trouvent gênés dans la vie telle que la leur fait le monde, Philippe était triste sans être sombre. C'est à cette tristesse peut-être qu'il devait sa douceur, car dans cette tristesse accidentelle, il eût été naturellement impérieux, superbe et peu communicatif. Le besoin de vivre avec tous les pauvres, ses égaux de fait, comme avec tous les riches, ses égaux de droit, assouplissait une nature que le ciel avait créée rude, dominatrice et susceptible. Il y a toujours un peu de dédain dans la mansuétude du lion. Philippe avait à peine embrassé son père qu'André, arraché à sa torpeur magnétique par la secousse de cet heureux événement, vint, comme nous l'avons dit, se jeter au cou du jeune homme. Cette action était accompagnée de sanglots qui révélaient toute l'importance que donnait à cette réunion le cœur de la chaste enfant. Philippe prit la main d'André et celle de son père et les entraîna tous deux dans le salon où ils se trouvèrent seuls. « Vous êtes incrédule, mon père. Tu es surprise, ma sœur, dit-il, après les avoir fait asseoir tous deux à ses côtés. Cependant, rien n'est plus vrai. Encore quelques instants et Madame la Dauphine sera dans notre pauvre demeure. » « Il faut les empêcher à tout prix, ventre bleu !» s'écria le baron. « Mais s'il arrivait une pareille chose, nous serions déshonorés à jamais. Si c'est ici que Madame la Dauphine vient chercher un échantillon de la noblesse de France, je la plains. Mais par quel hasard, dites-moi, a-t-elle été justement choisir ma maison ?»« Oh, c'est toute une histoire, mon père. »« Une histoire ?» répéta André. « Raconte-nous-la. » Oui, une histoire qui ferait bénir Dieu à ceux qui oublieraient qu'il est notre sauveur et notre père. » Le baron allongea les lèvres en homme qui doute que l'arbitre souverain des hommes et des choses ait daigné abaisser ses yeux vers lui et se mêler de ses affaires. André, voyant que Philippe était joyeux, ne doutait de rien, elle, et lui serrait la main pour le remercier de la nouvelle qu'il apportait et du bonheur qu'il paraissait éprouver, en murmurant « Mon frère, mon bon frère !» « Mon frère, mon bon frère !» répétait le baron, « elle a ma foi l'air satisfaite de ce qui nous arrive. Mais vous voyez bien, mon père, que Philippe semble heureux. Parce que Monsieur Philippe est un enthousiaste, mais moi, qui heureusement ou malheureusement pèse les choses, dit Tavernet en jetant un coup d'œil attristé sur l'ameublement de son salon, je ne vois rien dans tout cela de bien riant. « Vous en jugerez autrement tout à l'heure, mon père, dit le jeune homme, quand je vous aurai raconté ce qui m'est arrivé. » « Raconte donc alors, grommela le vieillard. »« Oui, oui, raconte, Philippe, dit André. « Eh bien, j'étais, comme vous le savez, en garnison à Strasbourg. Or, vous savez que c'est par Strasbourg que la Dauphine a fait son entrée. »« Est-ce qu'on sait quelque chose dans cette tanière ?» dit Tavernet. « Tu dis donc, cher frère, que c'est par Strasbourg que la Dauphine ?»« Oui, nous attendions depuis le matin sur le glacis. Il pleuvait à verse, nos habits ruisselaient d'eau. » On n'avait aucune nouvelle bien certaine de l'heure positive à laquelle arriverait Madame la Dauphine. Mon major m'envoya en reconnaissance au devant du cortège. Je fis une lieue à peu près. Et tout à coup, au détour d'un chemin, je me trouvais face à face avec les premiers cavaliers de l'escorte. J'échangeai quelques paroles avec eux. Ils précédaient son Altesse royale, qui passa la tête par la portière et demanda qui j'étais. Il paraît qu'on me rappela, mais pressé d'aller porter une réponse affirmative à celui qui m'avait envoyé, j'étais déjà reparti au galop. La fatigue d'une faction de 6 heures avait disparu comme par enchantement. « Et Madame la Dauphine ?» demanda André. « Elle est jeune, comme toi, elle est belle comme tous les anges, » dit le chevalier. « Dis donc, Philippe, » dit le baron en hésitant. « Eh bien, mon père, « Madame la Dauphine ne ressemble-t-elle point à quelqu'un que tu connais ?»« Que je connais, moi ?»« Oui. »« Personne ne peut ressembler à Madame la Dauphine !» s'écria le jeune homme avec enthousiasme. « Cherche. » Philippe chercha. Non, dit-il. Voyons, à Nicole, par exemple. Oh, c'est étrange, s'écria Philippe surpris. Oui, Nicole, en effet, a quelque chose de l'illustre voyageuse. Oh, mais c'est si loin d'elle, si au-dessous d'elle. Mais d'où avez-vous pu savoir cela, mon père? Je le tiens d'un sorcier, ma foi. D'un sorcier, dit Philippe, étonné. Oui, lequel m'avait en même temps prédit ta venue. L'étranger? Demanda timidement André. L'étranger, c'est cet homme qui était près de vous quand je suis arrivé, monsieur, et qui s'est discrètement retiré à mon approche. Justement, mais achève ton récit, Philippe, achève. Peut-être faudrait-il mieux faire quelques préparatifs, dit André. Mais le baron la retint par la main. Plus vous préparerez, plus nous serons ridicules, dit-il. Continuez, Philippe, continuez. J'y suis, mon père. Je revins donc à Strasbourg. Je m'acquittai de mon message. On prévint le gouverneur, monsieur de Stainville, qui accourut aussitôt. Comme le gouverneur, prévenu par un messager arrivé sur le glacis, on battait aux champs, le cortège commença de paraître et nous courûmes à la porte de Kehl. J'étais près du gouverneur. Monsieur de Stainville, dit le baron, mais attends donc, j'ai connu un Stainville, moi. Beau-frère du ministre, de monsieur de Choiseul. C'est cela. Continue, continue, dit le baron. Madame la dauphine, qui est jeune, aime sans doute les jeunes visages, car elle écouta distraitement les compliments de monsieur le gouverneur, et fixant les yeux sur moi qui m'étais reculé par respect. N'est-ce pas, monsieur? Demanda-t-elle en me montrant qui était envoyé au-devant de moi. Oui, madame, répondit monsieur de Stainville. Approchez, monsieur, dit-elle. Je m'approchai. Comment vous nomme-t-on? Demanda madame la dauphine d'une voix charmante. Le chevalier Tavernet Maison Rouge, répondis-je en balbutiant. Prenez ce nom dans vos tablettes, ma chère, dit madame la dauphine en s'adressant à une vieille dame que j'ai su depuis être la comtesse de Langershausen, sa gouvernante, et qui écrivit effectivement mon nom sur son agenda. Puis, se tournant vers moi, ah, monsieur, dit-elle, dans quel état vous a mis cet affreux temps? En vérité, je me fais de grands reproches quand je songe que c'est pour moi que vous avez tant souffert. Que c'est bien, madame la dauphine, et quelle charmante parole! S'écria André en joignant les mains. Aussi, je les ai retenues, mot pour mot, dit Philippe, avec l'intonation, l'air du visage qui les accompagnait, tout, tout, tout. Très bien, murmura le baron avec un singulier sourire, dans lequel on pouvait lire à la fois et la fatuité personnelle et la mauvaise opinion qu'il avait des femmes et même des reines. Bien, continuez, Philippe. Que répondîtes-vous? Demanda André. Je ne répondis rien, je m'inclinai jusqu'à terre, et madame la dauphine passa. Comment, vous n'aviez rien répondu? S'écria le baron. Je n'avais plus de voix, mon père. Toute ma vie s'était retirée en mon cœur, que je sentais battre avec violence. Du diable, si à votre âge, quand je fus présenté à la princesse Leczinska, je ne trouvais rien à dire. Vous avez beaucoup d'esprit, vous, monsieur, répondit Philippe en s'inclinant. André lui serra la main. Je profitai du départ de son Altesse, continua Philippe, pour retourner à mon logis et y faire une nouvelle toilette, car j'étais effectivement trempé d'eau et souillé de boue à faire pitié. Oh, pauvre frère, murmura André. Cependant, continua Philippe, madame la dauphine était arrivée à l'hôtel de ville et recevait les félicitations des habitants. Les félicitations épuisées, on vint la prévenir qu'elle était servie et elle se mit à table. Un de mes amis, le major du régiment, le même qui m'avait envoyé au-devant de son Altesse, m'a assuré que la princesse regarda plusieurs fois autour d'elle, cherchant dans les rangs des officiers qui assistaient à son dîner. Je ne vois pas, dit son Altesse après une investigation pareille, renouvelée inutilement deux ou trois fois, je ne vois pas le jeune officier qui a été envoyé au-devant de moi ce matin. Ne lui a-t-on pas dit que je désirais le remercier? Le major s'avança. Madame, dit-il, monsieur le lieutenant de Tavernet a dû rentrer chez lui pour changer de vêtements et se présenter ensuite d'une façon plus convenable devant votre Altesse royale. Un instant après, je rentrais. Je n'étais pas depuis 5 minutes dans la salle que madame la dauphine m'aperçut. Elle me fit signe de venir à elle et je m'approchai. Monsieur, me dit-elle, auriez-vous quelque répugnance à me suivre à Paris? Oh, madame, m'écriai-je, tout au contraire, et ce serait pour moi un suprême bonheur, mais je suis au service en garnison à Strasbourg, et c'est vous dire, madame, que mon désir seul est à moi. De qui dépendez-vous? Du gouverneur militaire. Bien, je m'arrangerai avec lui. Elle me fit un signe de la main et je me retirai. Le soir, elle s'approcha du gouverneur. Monsieur, lui dit-elle, j'ai un caprice à satisfaire. Dites ce caprice et ce sera un ordre pour moi, madame. J'ai eu tort de dire un caprice à satisfaire, c'est un vœu à accomplir. La chose ne m'en sera que plus sacrée, dites madame. Eh bien, j'ai fait vœu d'attacher à mon service le premier Français, quel qu'il fût, que je rencontrerai en mettant le pied sur la terre de France, et de faire son bonheur et celui de sa famille, si toutefois il est au pouvoir des princes de faire le bonheur de quelqu'un. Les princes sont les représentants de Dieu sur terre, et quelle est la personne qui a eu le bonheur d'être rencontrée la première par votre Altesse? Monsieur de Tavernay Maison Rouge, le jeune lieutenant qui a été vous prévenir de mon arrivée. Nous allons tous être jaloux de monsieur de Tavernay, madame, dit le gouverneur, mais nous ne troublerons pas le bonheur qui lui est réservé. Il est retenu par sa consigne, mais nous lèverons la consigne. Il est lié par son engagement, mais nous briserons son engagement. Il partira en même temps que votre Altesse royale. En effet, le jour même où la voiture de son Altesse quittait Strasbourg, je reçus l'ordre de monter à cheval et de l'accompagner. Depuis ce moment, je n'ai pas quitté la portière de son carrosse. Hé, fit le baron avec son même sourire. Hé, ce serait singulier, mais ce n'est pas impossible. Quoi, mon père, dit naïvement le jeune homme. Oh, je m'entends, dit le baron, je m'entends. Hé, mais cher frère, dit André, je ne vois pas encore comment, au milieu de tout cela, Madame la Dauphine a pu venir à Tavernay. Attends, c'était hier au soir, vers 11 heures. Nous arrivâmes à Nancy et nous traversâmes la ville au flambeau. La Dauphine m'appela. Monsieur de Tavernay, dit-elle, pressez l'escorte. Je fis signe que la Dauphine désirait aller plus vite. Je veux partir demain de bon matin, ajouta la Dauphine. Votre Altesse désire demain faire une longue étape, demandai-je. Non, mais je désire m'arrêter en route. Quelque chose comme un pressentiment me troubla le cœur à ces mots. En route, répétai-je. Oui, dit son Altesse royale. Je me tus. Vous ne devinez pas où je veux m'arrêter? Demanda-t-elle en souriant. Non, madame. Je veux m'arrêter à Tavernay. Pourquoi faire, mon Dieu? M'écriai-je. Pour voir votre père et votre sœur. Mon père, ma sœur, comment votre Altesse royale sait? Je me suis informé, dit-elle, et j'ai appris qu'ils habitaient à 200 pas de la route que nous suivons. Vous donnerez l'ordre qu'on s'arrête à Tavernay. La sueur me monta au front, et je me hâtai de dire à son Altesse royale, avec un tremblement que vous comprenez, Madame, la maison de mon père n'est pas digne de recevoir une si grande princesse que vous êtes. Comment cela? Demanda son Altesse royale. Nous sommes pauvres, madame. Tant mieux, dit-elle, l'accueil n'en sera, j'en suis certaine, que plus cordial et plus simple. Il y a bien, si pauvre que soit, à Tavernay, une tasse de lait pour une amie qui désire oublier un instant qu'elle est archiduchesse d'Autriche et dauphine de France. Oh, madame, répondis-je en m'inclinant, le respect m'empêchait d'en dire davantage. J'espérais que son Altesse royale oublierait ce projet et que sa fantaisie se dissiperait ce matin avec l'air vif de la route, mais il n'en fut rien. Au relais de Pont-à-Mousson, son Altesse me demanda si nous approchions de Tavernay, et je fus forcé de répondre que nous n'en étions plus qu'à 3 lieues. Maladroit! S'écria le baron. Hélas, on eût dit que la Dauphine devinait mon embarras. Ne craignez rien, me dit-elle, mon séjour ne sera pas long, mais puisque vous me menacez d'un accueil qui me fera souffrir, nous serons quittes, car moi aussi je vous ai fait souffrir depuis mon entrée à Strasbourg. Comment résister à de si charmantes paroles? Oh, c'était impossible, dit André, et son Altesse royale, si bonne à ce qu'il paraît, se contentera de mes fleurs et d'une tasse de mon lait, comme elle l'a dit. Oui, dit le baron, mais elle ne se contentera pas de mes fauteuils qui lui briseront les os, de mes lambris qui lui attristeront la vue. Bon, la France sera encore bien gouvernée par une femme qui a de ces fantaisies-là. Peste, voilà l'aurore d'un singulier règne. Oh, mon père, pouvez-vous dire de semblables choses une princesse qui nous comble d'honneur? Qui me déshonore bien plutôt, s'écria le vieillard. Qui songe en ce moment au Tavernay? Personne, et voilà que les gazettes, à l'affût de tout ce qui est ridicule, pour en tirer scandale dont elles vivent, vont consigner dans leur recueil la visite d'une grande princesse au taudis de Tavernay. Cordieu! J'ai l'idée. Le baron prononça ces paroles d'une façon qui fit tressaillir les deux jeunes gens. Vous voulez dire, mon père? Demanda Philippe. Je dis, mâchonna le baron, que l'on sait son histoire et que si le comte de Médina a bien incendié son palais pour embrasser une reine, je puis bien, moi, brûler une bicoque pour être dispensé de recevoir une dauphine. Et si agile encore, comme s'il eût 20 ans, le baron sortit du salon, courut à la cuisine, arracha du foyer un tison brûlant et courut aux granges pleines de paille sèche, de luzerne et de févrole. Il approchait déjà des bottes de fourrage lorsque Balsamo surgit derrière lui et lui saisit le bras. Que faites-vous donc là, monsieur? Dit-il en arrachant le brandon des mains du vieillard. L'archiduchesse d'Autriche n'est point un connétable de Bourbon dont la présence souille une maison à ce point qu'on la brûle plutôt que de la laisser y mettre le pied. Le vieillard s'arrêta, pâle, tremblant et ne souriant plus comme d'habitude. Allez, monsieur, allez, continua Balsamo, vous n'avez que le temps de quitter cette robe de chambre et de vous habiller de façon convenable. Mais, monsieur, reprit Tavernet, avec tout cela, la dauphine va voir ce que je ne voulais pas même vous montrer à vous, c'est que je suis malheureux. Soyez tranquille, baron, on l'occupera tellement qu'elle ne remarquera pas si votre maison est neuve ou vieille, pauvre ou riche. Soyez hospitalier, monsieur, c'est votre devoir comme gentilhomme. Monsieur de Tavernet obéit avec cette résignation dont une fois déjà il avait donné la preuve et alla rejoindre ses enfants qui le cherchaient de tous côtés. Quant à Balsamo, il se retira silencieusement comme pour achever une œuvre commencée.